et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la fin du modèle social français. On en parle avec notre invité, le journaliste Romaric Godin, resté 15 ans à la Tribune. Il a rejoint Mediapart en 2017. Après un premier livre sur le business du foot, il publie aujourd'hui « La guerre sociale en France », un ouvrage qui paraît aujourd'hui même à la découverte. Un ouvrage de théorie politique et économique où il analyse le projet du candidat Macron, repris par le président. Un projet économique imprégné, selon lui, de pensée néolibérale. Bonjour à vous, Romaric Godin.
Bonjour.
Emmanuel Macron, président du capital et non plus du travail, est-ce que c'est vraiment nouveau? Qu'est-ce qui le distingue fondamentalement de ses prédécesseurs? On a traité dans le journal de Thomas Cluzel, bien sûr, de cette actualité qui est le décès de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Je vous propose encore d'écouter ces mots, Jacques Chirac, autour du modèle social français, ou plutôt de la fracture sociale, terme qui lui était largement attribué et attaché depuis qu'il avait prononcé ces mots.
D'un côté, il y a ceux qui s'en tiennent toujours aux mêmes recettes. Attendant le retour de la croissance, ils pensent rassurer en ne modifiant qu'un minimum de choses. Ils font tout, disent-ils. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale comme si celle-ci n'existait pas déjà. De l'autre côté, il y a ceux qui continuent de croire à la force de l'idéal républicain et qui donnent la priorité à la cohésion sociale.
Voilà, est-ce que la description que Jacques Chirac fait là, en 1995, vous semble juste aujourd'hui ?
Oui, c'est une description qui, est, comme toujours avec Jacques Chirac, très polysémique, qui décrit véritablement cette difficulté que j'essaye de décrire dans le livre, de voir arriver un nouveau paradigme économique, un nouveau paradigme dominant, qui est celui du néolibéralisme dans les années 70, 80, et de devoir gérer le modèle social issu de la libération dans ce cadre-là. Et Jacques Chirac, comme je l'ai dit tout à l'heure, il essaye véritablement de s'adapter, hein, parce que le modèle français a beaucoup bougé, en fait, évidemment, depuis les années 70, c'est plus du tout le même, mais tout en essayant effectivement de conserver cette cohésion sociale, qui est un élément, je pense, assez particulier à la France, parce que tous les gouvernements qui ont essayé effectivement de faire des chocs libéraux sur l'économie française, et Jacques Chirac a été l'un d'eux en 86, après avoir été très keynésien en 74, il a été très néolibéral en 86, et effectivement il y a eu une réaction très vive du corps social français, et il y a eu à la fin la défaite de 1988 pour lui. Et en 1995, évidemment, il est dans la situation finalement où, disons que Monsieur Balladur est dans la situation où lui était finalement à la fin de 1988, et donc, il prend en compte cet élément de fracture sociale en disant, eh bien, on doit avancer dans le néolibéralisme tout en prenant en compte cette cohésion sociale.
Ce consensus que vous décrivez dans votre ouvrage « La guerre sociale en France », ce consensus néo-keynésien et néo-classique qui va se faire dans les années 80 sur les bienfaits de la concurrence et prôner la libre circulation du capital, au cœur donc de cette définition du néolibéralisme, ne va pas tout de suite passer directement par la France. Les prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont réussi, dites-vous, à préserver un certain modèle social français qui est né de la reconstruction, né après-guerre. Comment vous définiriez cet équilibre économique et social que la France a su préserver pendant plus d'un demi-siècle ?
Alors d'abord, c'est une préservation, si on veut. Disons que c'est plutôt, encore une fois, une adaptation. C'est-à-dire qu'on a essayé véritablement de préserver ce qu'on pouvait, d'une certaine façon. Le modèle social, soit bien clair, c'est pas du tout celui de 1945 qui est en fait maintenu. Il est modifié sous l'effet, évidemment, de la concurrence internationale, du changement des idées, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, en fait, les élites françaises, elles, sont converties depuis les années 70 et 80 à ce corps d'idées, à ce corpus d'idées. Simplement, les politiques, eux, effectivement, se rendent compte que si l'on va trop loin, si on fait un choc libéral, comme il y en a eu au Royaume-Uni dans les années 80 ou en Allemagne dans les années 2000, eh bien, on se rend compte qu'il y a véritablement des réactions un danger véritablement sur la société française que, en tout cas, ces politiques n'étaient pas prêts à assumer. Et donc, il y a eu effectivement le développement de réformes néolibérales, et on en a cité plusieurs, et les réformes évidemment des retraites, hein, la première date de 1993, et il y en a eu une en 2003, il y en a eu encore une en 2010, et puis en parallèle, le maintien notamment du niveau de vie des retraités. Si on prend le cas des retraites, c'est un élément important, puisque même si on a repoussé l'âge de la retraite, même si on a durci les conditions, même si effectivement on a pris en compte un certain nombre d'éléments, eh bien, en parallèle, la France a été un des pays qui a le mieux préservé son niveau de vie des retraites et qui a le mieux protégé ses retraités de la pauvreté.
Mmh. Il y a eu quand même des tentatives, même bien avant les années 80. On peut écouter les mots, si vous le voulez bien, d'un économiste dit libéral. Il se définit lui-même comme tel et déjà à l'époque. C'est Jacques Rueff, avec son plan d'assainissement financier, il va accompagner l'ouverture à la concurrence de la France sous De Gaulle en 58.
Dans mon esprit, l'entreprise d'assainissement financier de 1958, qui elle a été appliquée intégralement, ne pouvait porter tous ses fruits que si elle était suivie d'une part d'une réforme du crédit et d'autre part d'une suppression des principaux obstacles à l'expansion économique. L'équilibre financier, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. La fin, c'est l'expansion économique, c'est-à-dire l'augmentation du bien-être. C'est la création d'une situation qui permet à l'avenir de mieux sortir du passé et qui supprime tout ce qui fait obstacle à ce qui veut naître. Toutes les fois qu'une situation existe, elle tente à se défendre contre ceux qui tentent à la modifier. Toutes les fois que des gens sont en possession d'État, ils cherchent à écarter ceux qui tentent à les suppléer ou à les remplacer et qui de toute façon les remplaceront. Il est très heureux que les hommes soient mortels à cet égard, car quand on ne supprime pas les obstacles, c'est la nature qui charge de les supprimer.
Vous revenez, vous, longuement, Romaric Godin, sur la commission Attali dans cet ouvrage. Est-ce qu'on n'a pas là une commission, un plan pionnier avec et sous la gouverne de Jacques Rueff, une première tentative d'ouverture ou de libéralisation qui voit le jour?
Ce qui est intéressant, c'est que le néolibéralisme, c'est pas du tout une pensée qui est anglo-saxonne. C'est une pensée qui est aussi française, qui a une tradition française. Et Jacques Rueff
l'incarne,
le représentant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès le départ, dès les années 40-50, le modèle français est un modèle hybride, c'est un modèle mixte. Et c'est un modèle qui est déjà sous le coup de la critique, notamment de Jacques Rueff, des penseurs libéraux. Et en fait, il y a une dynamique. C'est pour ça que je disais, préserver le modèle français, c'est une idée qui est juste, mais en même temps, c'est une dynamique. C'est-à-dire que sous les quinquennats de Charles de Gaulle, il y a eu une volonté constante de libéralisation de l'économie, mais évidemment, on était dans un autre modèle économique dominant, et effectivement, c'était un modèle qui était mixte, mais je dirais avec une dominante keynésienne, pour le coup. Et effectivement, on a inversé un peu la tendance, mais on a conservé cette idée de mixité ensuite dans les années 70, 80, 90. Et c'est vrai que la commission Attali marque vraiment, par son premier mot qui est voilà, le temps est venu, marque vraiment la fin de la patience des élites néolibérales en France vis-à-vis de cette mixité. C'est cette mixité qu'il faut abolir. Il faut, comme le disait Jacques Rueff, mais Jacques Rueff a inspiré Charles de Gaulle, mais Charles de Gaulle n'a pris qu'une partie des idées de Jacques Rueff dans son exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, le fameux rapport Armand-Rueff qui a été remis en 59 va être la référence va renaître dans les années 70 et va être la référence en fait des néolibéraux français dans toutes les années 70 et 80.
Voilà, vous employez l'image, la métaphore de la dynamique. On voit qu'à un moment, alors quand précisément ce modèle hybride va être considéré par certains comme un frein, comme un poids, et dont il faudrait s'alléger. Ce modèle hybride, quelles attaques aujourd'hui voyez-vous à ce modèle avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République? En quoi irions-nous vers la fin de ce fameux modèle social français?
Alors, l'attaque contre le modèle mixte, il a commencé en 2010 en fait, hein, avec Nicolas Sarkozy, mais la structuration de la politique française faisait que effectivement on ne pouvait pas avoir une attaque, je dirais, massive contre ce modèle, parce que dans l'électorat, que ce soit de l'UMP ou des Républicains et du Parti Socialiste, il y avait des gens qui restaient attachés à ce modèle et à l'équilibre social. Avec Emmanuel Macron, la nouveauté, c'est qu'en fait, sa base sociale est une base qui est totalement dévouée à cette idée néolibérale, qui est convaincue que effectivement il faut casser ce modèle français pour pouvoir, comme l'a dit Jacques Rueff, faire naître la dynamique économique, et que le bonheur allait venir, va venir effectivement de cette libéralisation et de cette marchandisation de la société. Comment on le voit ? Bah, très clairement par les premières réformes qui ont eu lieu tout au long de ce qu'on appelle l'acte 1, ce qui est convenu maintenant d'appeler l'acte 1. Hein, c'est évidemment la deuxième réforme du marché du travail qui complète en fait la réforme, enfin la loi El Khomri, et qui n'est pas une réforme factice, c'est une réforme qui modifie complètement le rapport de force au sein des entreprises entre les salariés et les employeurs. La réforme de la SNCF qui en est une autre, à présent la réforme la loi Pacte qui va effectivement développer encore des privatisations et libéraliser encore l'économie avec la suppression de plusieurs éléments de contrôle, notamment par exemple les commissaires aux comptes pour les petites entreprises. On a véritablement cette idée que il faut libéraliser un maximum l'économie, marchandiser l'économie le plus possible. Je pourrais parler également de la réforme du logement social, par exemple, hein, où en fait on a sapé les bases du logement social français pour en fait ouvrir la possibilité d'un financement par le marché. Donc on a tout ça, et effectivement ça continue aujourd'hui avec la réforme de l'assurance maladie, de l'assurance chômage, pardon, et de la réforme des retraites.
Mais vous dites base sociale, en même temps, base sociale n'est peut-être pas exactement égale à socle électoral, mais si vous regardez ceux qui ont voté pour le candidat Emmanuel Macron, on y retrouve aussi des retraités, on y retrouve des fonctionnaires, on y retrouve des jeunes. On ne peut pas dire que cette base sociale-là soit spécialement encline à laisser s'affaiblir le modèle social français de la sécurité sociale aux retraites, de l'assurance chômage à l'éducation. C'est quand même un modèle dont beaucoup sont fiers encore aujourd'hui.
Il a été élu sur un programme qui était relativement clair, et il a fait, il a appliqué, et c'est peut-être ce qu'il faut lui reconnaître, en tout cas par rapport à d'autres. Jacques Chirac est décédé, on va pas lui faire un procès d'intention, mais c'est vrai que lui, il a appliqué le programme qu'il a présenté. Donc les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, au moins au premier tour, en dehors de ceux, et ils étaient nombreux, qui ont fait des choix tactiques, ça c'est autre chose, mais en tout cas ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour étaient persuadés effectivement que cette évolution-là devait aller vers devait apporter le bien-être en France. Ce qu'on voit actuellement, notamment avec les européennes, c'est qu'en fait on a une modification de cette base électorale qui est de plus en plus vers la droite, et donc on a une sorte de fusion de ceux qui au centre-gauche ont toujours défendu des réformes néolibérales, et de ceux qui, au centre droit, ont été également les défenseurs de cette évolution.
2015, on va écouter sa définition du mot libéral. Dans son ouvrage programmatique Révolution, il dit bien qu'il ne s'agit pas de s'adapter servilement au monde. Il propose un libéralisme offensif, et c'était déjà le cas quand il était ministre de l'économie. On l'écoute.
Le mot libéral, il a beaucoup de significations philosophiques, politiques, et donc là aussi, les gens n'entendent pas forcément la même chose derrière ce mot. Si libéral, ça veut dire abolir toutes les règles et laisser la loi du plus fort s'exercer, je ne suis en aucun cas libéral. Et la loi que je porte, on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises, en particulier sur l'ouverture des commerces de détail le dimanche, elle est tout sauf libérale. Parce qu'elle remet des compensations, elle remet des règles, elle remet plus de justice.
On en parlera.
Et donc, si simplement être libéral, c'est trouver les bons endroits pour mettre la règle, réussir à déverrouiller les choses pour libérer des énergies dans un cadre, préserver la justice en étant efficace. Alors je veux bien assumer ce terme.
Voilà. sa définition.
Oui, c'est pour ça que j'ai commencé mon ouvrage par une partie un peu plus théorique où j'essaye de définir ce qu'est le néolibéralisme, qui effectivement n'est qu'une forme de libéralisme. C'est pas ce qu'on peut entendre par libéralisme, voilà, ou ultralibéralisme ou des choses comme ça. Et le néolibéralisme, il se définit par le besoin, en fait, de l'État de garantir le fonctionnement des marchés. Et c'est pour ça qu'il a eu aussi ce succès à gauche, au centre-gauche, parce que il promet des marchés qui produisent la justice. Et donc, effectivement, il y a dans cette idée néolibérale, l'idée que si on encadre les marchés non pas de l'intérieur, mais simplement les laissant bien fonctionner, en leur permettant un fonctionnement harmonieux, en donnant parfois quelques compensations, eh bien, on aura effectivement une justice sociale qui sera, sortie de cette loi du marché.
Alors, si telle était l'intention, vous le racontez à la fin des années 2000, déjà, quand il y a radicalisation des élites, il va y avoir la crise financière qui va les freiner, les stopper dans cet élan. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise écologique va jouer, à vos yeux, Romaric Godin, le même rôle ou la même fonction? Est-ce que le coût écologique des politiques libérales est évalué? Est-ce qu'ils vont être, on va être forcés, de toute façon, en France comme ailleurs, de stopper cette course effrénée?
C'est une question qui est complexe. D'abord parce que si on regarde ce qui s'est passé après la crise de 2008, on se rend compte que, à part un bref moment de panique qui va de l'automne 2008 à mars 2010 à peu près, en fait, cette crise a été utilisée pour le néolibéralisme pour progresser encore plus. Et c'est notamment avec la transformation de la crise financière en crise de la dette publique en zone euro à partir de 2010. Et effectivement, un des points de basculement que je vois dans l'histoire économique de la France, c'est à l'automne 2010, lorsque Nicolas Sarkozy à la fois impose sa réforme des retraites et entre dans une politique d'austérité. Mais pour ce qui est de la crise écologique, il est pas à exclure que on nous propose, et c'est un peu ce qu'on fait actuellement, qu'on nous propose de régler cette crise par le marché. Et donc en laissant faire le marché, en incitant par des incitations fiscales les entreprises à se verdir, on peut espérer, c'est en tout cas ce qui semble se dessiner en termes de politique économique et écologique de la France, on espère que le problème se réglera. La réalité, c'est que c'est un peu l'inverse qui se passe, puisque en fait, le modèle néolibéral, l'économie néolibérale, elle a été sauvée par un élément, par deux éléments, qui sont les banques centrales, les achats d'actifs sur les banques centrales. Or, ces achats d'actifs, ce sont des achats d'actifs d'entreprises polluantes. Et deuxièmement, ça a été la relance chinoise qui s'est faite absolument n'importe comment et qui contribue beaucoup au réchauffement climatique aujourd'hui.
Voilà, pour comprendre aussi votre raisonnement, et j'invite les auditeurs à lire votre ouvrage pour en connaître le détail, terminer quand même par cette situation actuelle à vos yeux qui donne à ce livre ce titre, la guerre sociale en France. On aurait glissé du traditionnel conflit social qui pouvait encore ouvrir sur un compromis social à la guerre sociale. Pourquoi ?
Parce que, en fait, on se retrouve face à une position néolibérale radicale où, effectivement, tout ce qui relève du modèle social traditionnel, du modèle coopératif, du modèle de solidarité qui a été mis en place à partir de 1945 est conçu comme une entrave et un obstacle. Et donc, progressivement, on réduit tous ces obstacles. Et donc, on va créer, en fait, encore plus de précarité, encore plus de pauvreté, et on va créer une radicalisation en face, effectivement, d'une partie de la population qui sont les victimes de ces politiques. Et je pense que pour ceux qui croient à un acte 2 un peu différent, il faut regarder de très près ce qui s'est passé avec la réforme de l'assurance chômage, qui est la conséquence directe de la suppression des cotisations chômage en 2018. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on va vers un conflit plus ouvert.
Merci à vous, Romaric Godin. La guerre Merci sociale beaucoup. En France, votre nouvel essai vient de paraît même aujourd'hui à la découverte. Merci d'avoir, entre guillemets, joué le jeu, parce que cette émission a été raccourcie. C'est la grande nouvelle du jour. Le titre qu'on a développé longuement dans le journal de Thomas Cluzel, l'annonce de la mort de l'ancien président de la République, Jacques Chirac.